Africa Radio, l'invité, Nadir Djennad.
Vincent Jesser, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'intervenir ce matin sur Africa Radio. Vous êtes politologue et directeur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans, basé à Aix-en-Provence. Un rapport officiel intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France » débattu lors d'un conseil de défense et de sécurité nationale mercredi dernier alimente depuis plusieurs jours un débat médiatique. Ce rapport officiel, commandé à deux hauts fonctionnaires, affirme que les frères musulmans constituent, je cite, une menace pour la cohésion nationale. Tout d'abord, Vincent Jesser, rapidement, qui sont les frères musulmans ?
Alors, les frères musulmans, c'est une confrérie, un mouvement à la fois politico-religieux apparu dans l'entre-deux-guerres, exactement dans les années 30, en Égypte, qui a essaimé ensuite à l'échelle du monde arabe et du monde musulman, mais surtout dans les pays du Maghreb, à partir plutôt des années 70-80. Et il est vrai qu'un certain nombre de militants de ce mouvement, de sympathisants ou tout simplement de compagnons de route, ensuite sont venus en Europe faire des études universitaires et que parmi eux, il y a eu les créateurs, les fondateurs des premières associations musulmanes de France, des premières salles de prière, voire des mosquées. Tous n'étaient pas des frères musulmans parmi ces militants, mais quelques-uns avaient une proximité avec ces mouvements et notamment, ils ont créé en France, une partie d'entre eux, l'Union des organisations islamiques en France, qui est ensuite devenue l'Union des organisations islamiques de France et qui, depuis 2007, on les retrouve très âgés, mais dans l'organisation, l'association, la fédération qui s'appelle Musulmans de France.
Vincent Jesser, faut-il faire une distinction entre l'idéologie prônée par les frères musulmans et celle prônée par Daesh ou Al-Qaïda ?
Alors bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, les frères musulmans ont beaucoup évolué. Ceux qui sont installés en France depuis maintenant plus de 30 ans ou 40 ans ont déjà pris de la distance par rapport à l'idéologie du mouvement. C'est-à-dire que ce sont ils ont un héritage frères musulmans comme il y aurait des gens qui ont pu être trotskistes ou d'extrême gauche ou marxistes radicales dans les années 60-70 quand ils avaient 20 ans. Ils ont évolué dans leur positionnement. Bon, c'est vrai au niveau philosophique, au niveau politique, mais aussi au niveau religieux. Après, sur la question du terrorisme, y compris, je dirais, ces associations avec laquelle on peut situer une filiation frère musulmane, ils ont toujours été très opposés à justement ces mouvements Al-Qaïda. D'abord, sur le plan théologique, ils ne se réclament pas du salafisme, et ils se réclament encore moins du salafisme djihadiste, et sur le plan des méthodes, c'est-à-dire que non seulement ils condamnent la violence terroriste, mais depuis que la France est malheureusement victime d'attentats, et notamment les attentats les plus récents depuis 2015, ils ont participé à, je dirais, tous les dispositifs mis en place par le gouvernement et notamment le ministère de l'Intérieur pour lutter contre le terrorisme et surtout pour développer une pédagogie contre la radicalisation. Donc de ce point de vue-là, ils sont plutôt des acteurs de la lutte contre la radicalisation religieuse et politique, et ils ont été membres de toutes les initiatives gouvernementales, notamment de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur français, contre, toutes les formes de terrorisme et notamment l'influence des mouvements djihadistes sur une partie de la jeunesse française.
Oui. Alors faut-il prendre au sérieux, Vincent Jesser, ce rapport quand il dit que la confrérie des frères musulmans constitue une menace pour la cohésion nationale en France ?
Alors c'est très surprenant parce que ça fait plus de 30 ans ou même un peu plus qu'ils participent, comme je l'ai dit, à toutes les consultations qui ont été mises en place par le ministère de l'Intérieur français, qu'ils développent des relations à l'échelle des départements avec les préfets, qu'ils ont de nombreuses relations avec les élus. Donc ils sont connus, ils sont institutionnalisés, ils se sont banalisés dans le paysage politique français. Donc ça, c'est déjà une première surprise. Deuxième surprise, comme je l'ai dit, que finalement, c'est plutôt des structures vieillissantes. L'Union des organisations islamiques de France a connu ses heures de gloire dans les années 90-2000, avec le Bourget, ce qu'on appelle la grande rencontre des musulmans de France, avec les mouvements de jeunesse assez influents comme étudiants musulmans de France, jeunesse musulmane de France. Or, toutes ces organisations aujourd'hui sont plutôt en crise et en crise de recrutement pour différentes raisons, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, beaucoup de jeunes musulmans s'éloignent de ce type de structure pour des raisons, parce qu'on est beaucoup plus sur un islam aussi de réseaux sociaux, mais aussi parce qu'ils ont été dépassés par des, entre guillemets, des plus fondamentalistes qu'eux. On les considère comme une menace à un moment où ils sont précisément très affaiblis et très en perte d'influence.
Alors les deux auteurs du rapport, un ancien ambassadeur et un préfet, évoquent, je cite, un entrisme par le biais des frères musulmans, particulièrement dans trois secteurs, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et le sport. Quelle est la réalité de cet entrisme évoqué dans ce rapport ?
Là, il y a un confusionnisme, hein, c'est-à-dire que d'un côté, ce rapport traite d'une association ou d'une organisation particulière, Musulmans de France, ex-Union des organisations islamiques de France, et de l'autre, il traite d'un phénomène général qu'ils appellent un peu l'islamisme d'atmosphère ou les écosystèmes islamistes, dans lequel, en gros, ils mettent tout. Et donc, du coup, on a du mal à comprendre. Est-ce que, quand ils parlent du voile, quand on parle du voile pour les fillettes, quand on parle de l'entrisme dans le sport, dans l'entrisme d'éducation, des écoles coraniques sauvages, etc., ben, ça ne relève pas précisément de cette association musulmans de France, ex-UOF. Donc, en fait, il y a un rapport à deux vitesses. Il y a un rapport qui, je ne sais pas, ce n'est pas forcément à deux vitesses, mais un rapport qui traite d'une organisation précise, d'une part, et ensuite un rapport qui, sur certains passages, parle d'un phénomène plus général qu'on accole à cette association, mais précisément là, il y a un manque de faits, il y a un manque de preuves, il y a un manque de données patentes.
Est-ce que, selon vous, la diffusion de l'islam radical en France se fait par d'autres biais que celui de cette confrérie jugée déclinante ?
Ah ben oui, ça je crois qu'il y a un consensus pour les gens qui travaillent, qui sont spécialistes et qui sont un peu sérieux sur la question. Aujourd'hui, la question des réseaux sociaux, de prédicateurs incontrôlables, d'influenceurs, est bien plus forte que ce type de structure. D'une part parce que ces structures sont vieillissantes, mais d'autre part parce que ces structures officiellement luttent contre le terrorisme. Et ce n'est pas seulement officiellement. Pour donner des exemples d'enquêtes que j'ai pu faire, lorsqu'un imam qui appartient à cette fédération ou même à d'autres fédérations musulmanes, hein, fédération de la mosquée de Paris ou des fédérations plutôt d'influence marocaine, lorsqu'un imam voit des jeunes perturbés rentrer dans la mosquée, non seulement ils essayent de le raisonner, mais généralement ils le signalent. Ça, il faut quand même dire que les acteurs musulmans signalent très souvent, et plus que souvent, presque systématiquement, toute personne qui pourrait proférer des propos de type violent, djihadiste et d'apologie du terrorisme. C'est-à-dire que les premiers opérateurs de la chaîne du signalement des personnes qui seraient tentées par des actions radicales, c'est souvent les mosquées. Ça, on oublie de le dire. C'est que les mosquées jouent un rôle très très important dans ce que j'appelle les opérations de prévention, de sécurisation et de signalement. Et un imam, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va téléphoner à la préfecture, j'ai un jeune qui tient des propos bizarres, j'ai une personne qui fait l'apologie du terrorisme. Et donc les mosquées, c'est pour ça d'ailleurs que les mosquées sont rarement des lieux de recrutement, parce que les jeunes qui malheureusement se radicalisent, généralement savent très bien que dans les mosquées, ils vont être très vite signalés, repérés et souvent interpellés.
Parmi les préconisations du rapport pour contrer l'influence islamiste en France, il y a mieux développer l'enseignement de la langue arabe dans le milieu scolaire et la reconnaissance d'un État palestinien. Qu'en pensez-vous ?
C'est des choses, bien sûr, qu'à titre, en tant que sociologue, je suis bien sûr pour le développement des langues étrangères et la langue arabe aussi. Et la reconnaissance d'un État palestinien permettrait de pacifier les relations internationales. Mais je ne vois pas ce que ça a à faire dans ce rapport. Vous voyez, c'est vraiment prendre les musulmans comme s'ils avaient des causes communautaristes. Oui, il y a beaucoup de musulmans de France qui sont probablement sympathisants de la cause palestinienne et qui peut-être aussi souhaitent l'enseignement de l'arabe. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça a à voir ? C'est déplacé. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans qui souhaitent un État palestinien. Il y a aussi beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans, ou d'Arabes, ou de Français d'origine arabe qui ne sont pas musulmans, qui souhaitent que cette langue, qui est quand même une des langues les plus parlées au monde, qui est une langue de civilisation, soit enseignée.
Vincent Jesser, merci beaucoup d'être intervenu ce matin sur Africa Radio.
Merci.
Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de recherche et d'études sur les mondes arabes et musulmans d'Aix-en-Provence.
Retrouvez l'invité Africa Radio en podcast et sur africaradio.com avec Nadir Djennad.